Père, waouh, la présence de Dieu, c'est tellement quelque chose de merveilleux. Hein? Merci Laetitia, merci à toute l'équipe, c'est extra. En tout cas, tu m'as beaucoup encouragé dans ce que je dois apporter, vraiment. On dit qu'il n'y a qu'un seul esprit, n'est-ce pas? Et je crois que c'est vrai. Et vous savez, vous avez le bonjour de la France, en tout cas le sud de la France. Voilà, où il fait encore bon, hein? On peut encore manger dehors, on peut encore prendre des bains de soleil. Voilà, mardi il faisait 30 degrés. Mais j'ai ramené le soleil pour jusqu'à dimanche. Voilà. Non, en tout cas, vous avez les salutations aussi de la famille. Moi, je suis tellement heureux d'être là. Et puis, plus de Carcassonne. Voilà, j'habite plus près de Toulouse. Alors, vers Tarbes, Lourdes, vous voyez cette autoroute à 64, vers Biarritz, plus loin, l'océan, quoi. En tout cas, je quitte la Méditerranée pour partir vers l'océan et puis pour me rapprocher plus près des enfants et des petits-enfants. C'est un vrai plaisir de s'occuper des petits-enfants et de les voir plus souvent à la maison, de pouvoir aller les voir, de pouvoir aller manger avec eux, de pouvoir... voilà, c'est magnifique, je crois que... Faut pas louper ça, hein, jamais. C'est le plus beau rôle, papé. On m'appelle papé. Le papé. Le papé, en Suisse, c'est la potée de purée. Mais alors quand je dis papé, là-bas, ils se mettent à rire. C'est comme une plâtrée de purée. Non, ou de pommes de terre. Mais non, le papé, c'est dans le sud qu'on dit ça. Et c'est la ruelle soleil. En tout cas, c'est comme ça que mes petits-enfants m'appellent. Voilà, mais je suis tellement heureux aussi de pouvoir partager avec vous. Mais écoutez, je vais vous secouer un petit peu les 4 jours que je vais être là, quoi. Tant pis, hein. Après, vous me mettrez à la porte et vous voudrez plus m'inviter. Mais voilà. En tout cas, je vais essayer de vous montrer des choses. Je crois, il y a dans 2 Corinthiens 13:13, c'est une formule de politesse de Paul. C'est marrant comme une formule de politesse peut tellement être importante aussi. Vous savez que les points et les virgules sont très importants dans la parole de Dieu. Et là, 2 Corinthiens 13:13, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication ou la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Quand il dit ça, il dit pas ça juste pour nous faire plaisir ou pour faire une belle lettre et finir une belle lettre, non. En plus, il parlait aux Corinthiens, donc il était un peu sévère avec eux, avec toutes leurs bêtises qu'ils faisaient. Mais quand il disait cette communion, cette intimité avec le Saint-Esprit. Et je crois que c'est tellement important. Et pourtant, je crois que le Saint-Esprit est terriblement négligé. Et même en réalité, il est oublié. Oh là là, je commence dur, hein, et fort. Bien sûr, aucun chrétien digne de ce nom ne renierait son existence. Pourtant, je suis presque prêt à parier que des millions de croyants pratiquants ne peuvent pas affirmer qu'ils ont expérimenté sa présence ou son action dans leur vie au cours de l'année. Beaucoup d'entre eux ne croient même pas qu'ils pourraient. Ouah, je suis dur quand je parle. Et pourtant. Souvent dans mes voyages, le critère de réussite, c'est plutôt le nombre de participants que l'action du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je constate que l'Église est remplie de consommateurs centrés sur eux-mêmes. Oh là 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 là. Plutôt que des serviteurs centrés sur l'Esprit-Saint. Et je pense qu'avec le temps, on s'est fait à cette situation. C'est pour ça que ça vous choque quand je vous le dis. Parce que on est habitué à ne pas voir le Saint-Esprit agir. Vrai ou faux? Alors oui, quand tu es là le dimanche, tu vas pouvoir faire chamallow, chamallow, voilà, tu vas parler en langue, quoi. Mais après, au bout du compte, il n'y a plus rien, quoi. Mais il est tous les jours avec vous, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Alors je vais vous dire... Avec le temps, on s'est tellement habitué à une façon de fonctionner, on est tellement formaté dans notre tête avec notre esprit religieux, c'est comme ça que ça doit être, c'est comme ça que ça doit faire, et on habitue, et on fait même naturellement les choses sans que l'esprit soit là. Imaginez-vous que vous auriez grandi sur une île déserte, avec la Bible pour seul livre. Et au bout d'un grand nombre d'années, vous vous retrouvez dans une église évangélique. Je crois que vous risquerez d'être choqués. Car vous auriez lu les Écritures en dehors du contexte de l'église contemporaine. Vous seriez convaincu que le Saint-Esprit est aussi essentiel à l'existence du croyant que l'air pour rester en vie. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Sincèrement. On a vécu un bon temps tout à l'heure de louange, mais sincèrement, quand tu vas retourner chez toi, sincèrement, vous sauriez que l'Esprit a poussé les premiers chrétiens à faire des choses inexplicables et à vivre des vies qui n'auraient aucun sens et qui n'avaient aucun sens pour leur culture environnante. Quand vous lisez la Bible et que vous méditez la parole et que vous lisez les actes, mais pour eux, c'était de la folie. Parce que nous, aujourd'hui, on est en l'an 2000, comme on nous dit toujours. Mais on n'est même pas choqué de ce qui peut se passer avec le Saint-Esprit. On s'habitue, n'est-ce pas? Mais eux, ça les a tellement environnés, il était tellement avec eux chaque instant qu'il communiquait cette bonne nouvelle partout et il se passait des miracles, des prodiges, des guérisons. Tous les jours, tous les instants, l'Esprit parlait et conduisait les gens. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est écrit comme ça dans la Bible, n'est-ce pas? Et pourtant, est-ce que c'est plus le même Saint-Esprit? Ou est-ce qu'il y en a un autre? Il n'y en a pas un autre? On dit qu'il ne change pas, il est toujours le même, il ne varie pas du nombre. Et pourtant, je pense qu'il existe un énorme fossé entre ce que nous lisons sur le Saint-Esprit dans les Écritures et la manière dont on fonctionne la plupart d'entre nous. Vous n'avez pas remarqué? Quel fossé il y a, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis, relisez la Bible. Je pense que quelque chose manque. En réalité, c'est quelqu'un, le Saint-Esprit. Et sans lui, les gens agissent par leur propre force. Et à cause de cela, on obtient des choses de taille humaine. Vous avez vu là tout à l'heure un miracle? Une guérison. Vous avez vu les dons se manifester? Oui ou non? Non. Alors, est-ce que l'Esprit n'y était pas? Pourtant, elle a vécu quelque chose de fort. Elle était remplie de l'Esprit. Moi, je me réjouissais. Sans l'Esprit Saint, l'Église n'a pas la puissance nécessaire pour faire la différence dans ce monde dans lequel on est aujourd'hui. On est dépassé. Même le monde chrétien est dépassé. Les gens ont peur. Même le monde chrétien a peur. Et pourtant, l'Esprit Saint est avec nous. Il est tous les jours avec nous. Mais quand nous vivons par la puissance de l'Esprit, on vit une vie surnaturelle. Alors l'Église, elle devient différente et le monde ne peut que le remarquer. Je vous raconte une histoire que j'ai vécue il y a 2 semaines. C'est pas vieux, c'est tout récent. Pour vous montrer que le Saint-Esprit, il est là tout le temps avec nous. Je suis allé dans une ville ou dans une église, mais juste j'arrivais l'après-midi comme là je suis arrivé, puis je suis allé directement chez le pasteur, qui a une belle maison, il est médecin, elle est psy, voilà, directrice de l'hôpital psychiatrique, et puis voilà, et puis c'est des gens, et puis ils me mettent dans le salon du jardin, quoi, puis on discute avec le pasteur, et puis d'un seul coup sa femme arrive, après avoir passé une journée épuisante, et elle était toujours complètement déprimée, cette femme, femme du pasteur. Je me disais, mais où est le Saint-Esprit là? Puis, elle me regarde, et au moment où mes yeux ont vu ses yeux, en un seul instant, complètement changé et délivré. Mais j'ai rien dit, j'ai même pas parlé, j'ai rien fait. Je vous promets, sa vie a été bouleversée. Elle n'était plus la même personne. Son visage est devenu souriant. Elle n'était plus la même. Mais pourquoi? Est-ce que c'est Hervé qui a quelque chose? Non, j'ai rien du tout de plus que vous. On l'a chanté tout à l'heure. C'est juste des vases de terre, mais avec une puissance en nous. Et moi, j'étais étonné que mon regard puisse complètement changer cette femme. C'est la première fois que je la vois comme ça. Après toutes ces années que je vais dans leur église. J'ai dit, Seigneur, rien que ton regard. Et vous avez chanté, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai aimé ce chant parce que ça correspond avec ce que je veux vous dire. Mais s'il vit en vous, vous êtes Jésus. Quel choc, n'est-ce pas? Et pourtant, partout où vous êtes, il est là. Il ne vous quittera pas, il ne vous abandonnera pas, il vous laissera jamais tout seul. Il l'a promis et il le fait. Alors pourquoi il n'agit pas au milieu de nous? Ça, c'est vraiment des choses qui m'inquiètent. C'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment négligé. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Je ne sais pas si je vous l'ai dit cette histoire, mais il y a 2 ans peut-être, l'histoire de l'avion, je vous l'ai dit, non? Alors je le redis, tant pis si vous le savez. J'en ai eu tellement d'histoires avec les avions, quoi. Et puis, dans les avions, j'y suis tout le temps, alors ça fait que on vit des expériences extraordinaires. Et puis, un jour, j'étais dans l'avion en train de revenir d'une ville et je rentrais sur Toulouse et il y avait un orage terrible. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un avion quand il y avait des perturbations? Je vous assure que il y en a qui ont la trouille quand même. Mais là, c'était une très forte perturbation. Je vous promets, je vous explique. Ça bougeait vraiment très très fort. Que le pilote dit au steward, regagnez vite votre place, ça va être terrible devant tout le monde, il a dit ça. Alors là, la panique à bord. Les stewards ont voulu regagner leur place, ils n'ont jamais pu y aller. Ils se sont assis sur les gens, je vous promets. Impossible de tenir debout, impossible. Ça bougeait vraiment beaucoup. Et puis moi, je riais. Et je ne sais pas si je riais de peur ou de quoi, mais je riais. Puis je me retourne et je regarde les gens. Tout le monde priait. Même celui qui ne croit pas, il priait. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que l'esprit peut faire quand même? Incroyable. Moi, j'étais étonné. J'ai dit, ça alors, Seigneur, c'est incroyable. Et puis je me remets droit. Et d'un seul coup, ça bougeait vraiment beaucoup. Je défiais la ceinture. Je me lève. Ça bougeait pourtant, je vous assure. J'ai dit, prince de l'air, tu arrêtes maintenant. L'avion s'est stabilisé, plus d'orage. Imaginez devant tout le monde. Je me rassois très vite. Je dis, on n'a pas le droit d'enlever sa ceinture. Je remets vite la ceinture pour obéir. Je revenais Hervé, quoi. Mais en moi, il y a l'Esprit Saint, mais pas que je suis un meilleur. Comprenez ce que je veux dire. Quand je parle de ça, c'est pour chacun de nous. Nous devons le vivre dans notre quotidien. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas des élites, c'est des hommes et des femmes. Tout simple, c'est le peuple de Dieu, c'est les enfants du Seigneur, c'est les héritiers, les co-héritiers, Christ qui peuvent vivre ça, parce qu'ils ont l'Esprit Saint et le baptême du Saint-Esprit, cette plénitude, ce manteau, c'est pour vivre tous les jours avec nous et vivre des choses qui vont nous étonner. Ah, ça, on le vit pas tous les jours dans l'avion, n'est-ce pas? Mais j'imagine tout ce qu'ils ont vécu dans les actes, ils devaient être choqués aussi. Alors là, la suite, c'était rigolo, parce que ça faisait très longtemps que je voulais descendre le premier. J'ai dit, jamais j'ai pu. J'étais toujours au milieu de l'avion. Quand je viens ici, je suis devant. Ça va, je suis quand même le deuxième. Il y a toujours un qui me grille la place devant. Voilà, il me bouscule pour être le premier. Et là, je me lève, je prends mon cartable en haut. Les hôtesses avaient déjà ouvert la porte. La ceinture était... On pouvait se détacher. Je regarde autour de moi, et quand je regarde les gens, tout le monde baisse la tête. Comme ça. Je dis, qu'est-ce que je leur ai fait? Incroyable. J'avais déjà oublié ce que j'avais fait juste avant moi. Et puis, mais si c'est naturel, on l'oublie vite, quoi. Ça devrait être courant, mais, alors, voilà. Alors, je prends mon cartable et j'avance, et j'arrive vers l'hôtesse, et l'hôtesse prend ma main. Ah, elle dit, monsieur, je veux vous remercier. Et vous savez, avec mon patois de canon, j'ai dit, c'est Dieu. Et elle a dit, oh, arrêtez, j'ai bien vu que c'est vous qui avez fait quand même. Et c'est vrai, quoi, elle a raison. On est tellement bizarres, nous, les chrétiens. On a des mots très spirituels, mais on ne vit pas avec la puissance de l'esprit, quoi. C'est vrai ou pas? En tout cas, voilà. Et là, il s'est passé ça. Et j'ai descendu le premier, j'ai posé le pied sur le sol. J'ai dit, ouah, Seigneur, j'ai été le premier. Voilà. Mais en même temps, la puissance de Dieu. Un mois après, je retourne dans un avion, et qu'est-ce que je fais? Je Une hôtesse m'a dit, elle me regarde et elle me dit, « Oh, c'est vous ? Vous allez pas recommencer, elle me fait !» J'ai dit, « Non, non, il va pas faire d'orage cette fois. » Mais pourquoi ? J'ai pas fait ça parce que moi, je voulais le faire pour me faire voir. C'est l'esprit qui m'a poussé à faire des choses. Mais quand vous lisez dans la parole de Dieu, c'est bien ça, l'esprit poussait les gens à vivre des choses extraordinaires parce qu'ils vivaient dans le quotidien avec lui. C'est Christ qui vivait en eux, n'est-ce pas ? Ça va loin. Ah. Je pense que l'on a besoin d'être bousculé dans nos idées boiteuses ou même fausses qu'on a accumulées depuis longtemps. Écoutez, on va lire un texte, Hébreux 4:12. Et ce texte, vous le lirez à chaque fois avant de lire la Bible. On va le lire ensemble, peut-être... Ah oui, il faut que je le prenne là. Dans ma Bible électronique, ça va bien. Voilà, bon, zut, c'est pas ça. Voilà, je vais vous dire ça. Ça va ? Vous êtes bien ? Pas trop secoué ? Hébreux 4:12, c'est la tempête, tant pis. Hein. Hébreux 4:12, on va lire ça. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Dites-moi, quand vous avez lu la Bible, est-ce que ça vous a fait ça ? Sincèrement, beaucoup de gens me disent « je comprends pas ». Mais je dis « laisse l'esprit te travailler, laisse-le te pénétrer ton cœur et montrer qu'est-ce qui va pas dans ta vie ». Mais on lit machinalement la parole de Dieu sans laisser l'esprit de Dieu travailler nos cœurs. C'est pour ça qu'il y a tellement de chrétiens qui changent jamais. Mais pourquoi ? Parce qu'on consomme le dimanche, mais on ne vit pas ce que Dieu nous montre. Si la parole de Dieu est une épée à double tranchant, elle va aller jusqu'aux profondeurs de nos vies. Moi, je le dis à haute voix parce que je me suis converti avec la parole de Dieu. Pourtant, j'ai entendu un prédicateur, j'ai rien retenu. Les gens m'ont témoigné de Jésus. Ah, j'ai fait la soirée d'évangélisation, j'ai écouté, je me suis avancé, j'ai rien compris. Puis quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à ouvrir la Bible. Et là, je dis, elle parle de moi, mais elle dit mes affaires, mais elle dit ce que je suis. Et mon esprit commençait à s'ouvrir, à comprendre que la parole de Dieu était devenue comme une épée à double tranchant pour révéler ce que Hervé était réellement. Est-ce que ça vous fait ça ? Et pourtant, c'est ce que la Bible dit, elle devrait. Donc c'est l'esprit qui vient travailler nos cœurs pour nous révéler, pour qu'on change. Combien de gens sont toujours dans les mêmes problèmes ? C'est vrai, les mêmes défauts. Oh, je crois que c'est important. Relisez les paroles, laissez l'esprit vous parler. Je crois que nous devrions réexaminer notre foi. Rappelez-vous les Juifs de Bérée. Ont été cités en exemple parce qu'ils examinaient tout ce qui leur était enseigné. Ils n'écoutaient pas seulement, mais ils regardaient si c'était en accord avec les Écritures. C'est dans Actes 17:11. Ils examinaient. Aujourd'hui, je suis tellement étonné. Des gens qui entendent des messages le plus glorieux possible à Internet ou des grands prédicateurs et leur vie ne change pas. Vrai ou faux ? Et pourtant, ils disent, ah, que le message, il était super. Oui, mais est-ce que t'as changé ? Non. Est-ce que t'adores plus Jésus depuis ce temps-là ? Non. Alors, pourquoi ? Ça t'a fait du bien, juste, un petit peu, mais ça t'a pas changé. On peut être là à toutes les réunions et ne jamais changer. Ça veut dire qu'on est des vrais religieux. Pardon, hein, je secoue les puces, mais c'est la vérité. Je vous l'avais dit, hein, tant pis. Et je crois que Dieu veut vous bousculer encore. Je pense que c'est bien tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu veut qu'on change et qu'on devienne des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Je crois que c'est tellement important. Vous savez, on entend tellement de choses. Il y a tellement de fausses doctrines qui sont enseignées. Des choses incroyables qui se passent. Je suis étonné de tout ce qui se passe et de toutes les choses. Parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne laisse pas l'esprit, on ne se soumet pas au Saint-Esprit. Alors on va inventer des tas de choses. On veut remplacer le Saint-Esprit, vrai ou faux. C'est pour ça, moi des fois j'aime mieux être avec les non-charismatiques que les charismatiques. Moins de problèmes. Parce qu'en fait, c'est au moins profond la parole. Et pourtant, nous avons la puissance de l'Esprit. Oh, tous les jours, même à votre travail, même dans votre quotidien de votre vie, même pour les petites choses, même pour la cuisine, vous allez dire, Hervé, tu le réduis à quoi? Mais il est là tout le temps. Il donne même des solutions. Je connais un boucher, un agriculteur boucher en même temps. Il vend ses viandes, il les tue et il les vend. Écoutez, à chaque fois qu'il fait une nouvelle recette, il prie. Seigneur, montre-moi la recette que tu veux aujourd'hui. Et il lui donne tous les ingrédients pour mettre dedans. Je vous promets, ça peut vous sembler drôle. Et pourtant, vivre avec le Saint-Esprit, je ne le réduis pas à ça, mais c'est dans notre quotidien. Nous, on voudrait que, quand on vient, il y ait une parole puissante, et puis Hervé va donner une belle parole, et puis ça va être bien. Non, si tu ne changes pas, ça ne sert à rien du tout. Et je vais loin. Hein. Tout le monde peut entendre le Seigneur. Tout le monde. Il n'y a pas privilégié. Mais laissons, elle a dit tout à l'heure, laissons l'Esprit nous pénétrer et laissons l'Esprit nous parler. Soyons ouverts pour dire, c'est vrai jusqu'à maintenant, j'ai vécu ma vie chrétienne très religieuse et puis je te demande pardon Seigneur, je fais table rase et je vais reprendre avec toi la parole et te laisser m'enseigner au travers de la parole de Dieu. Et laisser travailler mon cœur, me changer. Je crois que c'est ce que Dieu voudrait tellement. Relisez la Bible en laissant de côté tout votre savoir, tout ce qu'on vous a appris pour écouter l'Esprit, pour vous, rien que pour vous. Cette présence intime. Qu'est-ce que Dieu m'a dit dans la louange tout à l'heure? Quel est le chant qui m'a percuté mon cœur? Comment l'Esprit a pu percuter au travers de la louange? Dis quoi, juste ça. Moi, j'ai été bouleversé. J'ai dit, Seigneur, tu es en train de dire tout ce que je dois faire. Elle va prêcher, je vais lui laisser. Mais c'est vrai. Et je crois que c'est tellement important. Quand on regarde Actes au chapitre 1, versets 4 et 5, regardez. Après sa mort et sa résurrection, il recommande de rester à Jérusalem et d'attendre le Saint-Esprit. Regardez ça. Nous, aujourd'hui, on sait par cœur ça. Alors, on s'attend plus. Mais il est dit, les disciples ne savaient absolument pas qui ou quoi attendre, ni comment ça allait se passer. Je vous assure, ils ne savaient pas. Jésus leur avait dit, vous allez avoir un beau cadeau, allez vous mettre dans la chambre haute, je vais vous l'envoyer. Mais comment ça va se passer? Vous vous imaginez d'un seul coup, là, en train de louer Dieu comme tout à l'heure, des flammes de feu viennent sur votre tête. Vous allez dire, au nom de Jésus, les esprits méchants. Non, mais parce que on est tellement habitué au système bien réglé. Bien réglé. Il va y avoir la louange, puis après il va y avoir un prédicateur. Mais ça va bien plus loin que ça, je crois. Si je ne change pas, à quoi ça sert, quoi? Je crois qu'il y a quelque chose qui doit nous bousculer. Alors ils ne savaient pas, mais ils attendaient ce beau cadeau. Et dans Acte 4, cette promesse s'accomplit d'une façon telle que les disciples ont dû être choqués, la puissance du Saint-Esprit est libérée de manière totalement inédite. Même Jésus, quand il était sur la terre, il n'a même pas fait ça. Et là, il nous a surpris. Alors, qu'est-ce qui peut encore me surprendre? Cette femme qui était assise avec moi, juste moi j'étais surpris aussi, je m'attendais pas que dans mon regard ça pouvait faire quelque chose comme ça. Mais c'est l'Esprit qui a fait. Elle a juste fixé mon regard. Je me demandais même qu'est-ce qu'elle voulait regarder. Mais incroyable, la présence de l'Esprit. Si nous lisons et croyons réellement ces récits, on va s'attendre à beaucoup plus du Saint-Esprit. Croyez que la parole est la vérité et que ce que Dieu nous a promis par son esprit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est bien cette promesse qu'il a fait. Il n'a pas dit juste au moment des actes quand les disciples étaient là. Non, c'est tous les jours pour chacun d'entre nous jusqu'à ce qu'il revienne. Et même dans les moments terribles, dans les moments de confrontation, et on passe par des vallées de l'ombre de la mort. Mais il est toujours là, il est continuellement là. Et tout le monde est éprouvé parce qu'on est sur la terre. Vous savez, quand il y a une pluie d'orage, c'est pour tout le monde. Il va pas faire un privilège. Et puis quand il y a les grandes tempêtes, on en a eu une l'année passée au mois d'octobre. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette grande tempête qu'il y a eu dans l'Aude. L'eau, elle faisait 30 degrés dans la Méditerranée. Puis dans le ciel, il faisait froid. Et puis ça a amené à faire une tornade. Puis ça a amené des nuages juste au-dessus de l'Aude. Il y a les Pyrénées d'un côté et la Montagne Noire de l'autre. Nous sommes mis dans cet endroit-là. Les nuages sont venus, ils sont tombés. Descendus de la montagne, toute l'eau. Il y a eu des vagues dans les ruisseaux, je ne parle pas de la mer, de 10 mètres de haut. Des maisons entières ont été balayées. J'ai un ami qui est chrétien, il est policier. Il a entendu la nuit un grand bruit. Il a ouvert son volet, il se demandait ce qu'il y avait. Et au moment où il a ouvert, la vague allait rentrer dans sa maison. L'eau jusqu'en haut du toit, il est obligé de sortir à la nage. Fou quoi, les chocs qu'il y a eu. Des piquets électriques en béton coupés. Des arbres qui étaient très vieux, arrachés. Plus rien n'a tenu devant l'eau. La puissance de l'eau qui est descendue. On s'est dit, des routes complètement dévastées. Il y a une voiture, écoutez, dans le même village qu'il y avait le policier. Une dame disait, elle était chez elle, elle a vu une voiture qui a monté à 10 mètres de haut, comme ça. Elle arrivait droit sur sa maison, dans sa fenêtre, et elle a crié, elle a pris la photo, et puis après elle dit, c'est fini, qu'elle a fait. Et la voiture, elle a passé au-dessus de la maison, elle est retombée de l'autre côté, dans l'autre route. Incroyable. Des choses folles. C'est des trucs... Le monde est complètement déchaîné avec tout ce qui se passe. Mais nous, enfants de Dieu, comment allons-nous réagir? Moi, je me rappelle, je suis rentré de Marseille ce soir-là. Il voulait que je reste le soir. J'ai dit non, je crois qu'il faut que je rentre. J'ai convaincu, l'esprit me dit, il faut que tu rentres. Rentre vite chez toi. J'ai dit, oh, mais quand même. Et je leur dis, non, il faut que je rentre. Il faisait beau à Marseille, il faisait beau aussi à Carcassonne. Et je pars sur la route, et quand je suis arrivé, cette même nuit, à minuit, ça s'est déclenché. Moi, j'ai vu, derrière chez moi, l'eau qui a passé comme un torrent. J'ai dit, mais d'où ça vient? Incroyable. Et pourtant, rester dans la paix malgré tout cela, c'est incroyable. Mais il faut une force et une puissance de l'esprit, c'est-à-dire qu'il faut le vivre dans notre quotidien. C'est pas quelque chose qui est une option pour nous. Bien souvent, dans nos vies, on met Jésus en option, n'est-ce pas? Mais il vit en nous, n'est-ce pas? Et je crois que Dieu veut vraiment nous changer. Il veut nous transformer. Il veut nous amener à vivre ce qu'il a promis de faire avec nous. Vous savez, comment voulez-vous vivre les vies de l'esprit si vous êtes dans votre confort de tous les jours? C'est vrai ou pas? Alors c'est pour ça qu'il y a besoin d'être perturbé de temps en temps pour dire, on va crier vers lui, quoi. Mais sinon on oublie, on est pris dans une routine, une façon de vivre, notre train-train quotidien. C'est comme ça que ça doit être. C'est à cette heure-là que je dois prendre le repas, c'est à cette heure-là. Puis si le Saint-Esprit dit la nuit, lève-toi, je veux que tu pries. On n'a pas trop envie, hein. Oh non, laisse-moi dormir, Seigneur. Mais je crois que Dieu veut nous apprendre. Vous savez, je sais pas, ça va, je suis dans les temps. Je crois que nos églises peuvent croître sans lui. Soyons honnêtes. Vous réunissez un orateur charismatique, une équipe de louanges talentueuse, quelques événements créatifs, branchés, et les gens vont fréquenter votre assemblée. Elle est pleine, en peu de temps. Regardez, toutes ces grandes églises, c'est vrai ou faux? Je critique pas, mais je veux savoir si les gens sont changés, moi. Regardez, je suis allé dans une église, je vous promets, hein, une église où c'était le top du top. La sono, elle aurait plu à notre sonorisateur, parce que, en fait, quand je parlais, ou quand on parlait, on avait l'impression que c'était celui d'à côté qui nous parlait, tellement c'était... Et le son était bas, mais tout le monde entendait. C'était incroyable. Pour ceux qui ont des problèmes d'oreille, c'est extraordinaire, quoi. Il y avait des fauteuils, relax, les gens dormaient tellement on était bien. Cool, vraiment. Puis une louange, écoute, une équipe de louanges, là, t'aurais été super. Waouh. Mais il y avait une bonne équipe aussi, il y en a. Mais une équipe de louanges, mais c'était extra. Je dis, mais j'ai cherché les imperfections et tout était parfait. Mais vraiment parfait. Il n'y avait même pas de fausses notes, rien. la musique, tout était parfait. Puis, tout le long de l'église, il y avait comme des comptoirs avec des tas de choses pour tous les gens. Même si quelqu'un n'avait pas de boulot, il y avait des gens disposés pour faire les papiers et tout, pour trouver du boulot. T'as pas de maison, il repartit, il avait une maison. Il y avait tout, je vous assure, c'était l'église au top du top. Ils avaient beaucoup d'argent, mais c'était le top du top, quoi. Vraiment bien. Et c'est moi qui dois parler. Je dis, écoute Seigneur, j'ai rien à dire ici, ils ont tout. Et j'entends l'Esprit qui me dit, dis-leur que je suis pas au milieu d'eux. Je dis, Seigneur, me fais pas ça. T'as vu tout ce qu'ils ont. Hervé, ils ont ça, mais je ne suis même pas au milieu d'eux. Alors là, c'est le choc dans mon cœur. Je dis, oh, je peux pas faire ça. Ils vont me tuer, quoi. Et ça arrive, c'est moi qui vais prêcher. Je tremblais dans mon cœur. Je dis, Seigneur. Et l'Esprit, il me dit, tu leur dis, Hervé? Je dis, oui, mais quand même, Seigneur. Et là, je commence à dire, voilà, le Saint-Esprit n'est pas au milieu de vous. Vous auriez vu, les gens, s'ils avaient eu des kalachnikovs, ils me tuaient tout de suite. Les yeux, waouh, vraiment, vraiment. Je crois que je suis resté pendant beaucoup d'années à plus aller dans cette église-là. Ils n'ont plus voulu de moi. Puis ils ont changé de pasteur il n'y a pas longtemps. Puis voilà que le pasteur qui vient, c'est un ami à moi. Alors lui m'invite, mais il ne connaît pas l'histoire d'avant. Alors je lui dis, je veux bien, mais tu sais, il y a un passif. Et puis tu sais, je ne sais pas si l'église a bien changé. Alors il dit, mais je veux que tu viennes. Alors je viens, il n'y avait plus les fauteuils, c'était des chaises, on était mal. Mais voilà, là on dormait plus. Et puis après, la louange, oh là 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 là, là fallait qu'il révise un peu, quoi, je crois. Il y avait beaucoup de fausses notes, c'était complètement différent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Et puis j'arrive et je monte sur l'estrade, puis il y avait encore des gens de cette période-là. Quand ils m'ont vu, ils se sont levés, sont partis. Fou, hein, incroyable. Et puis, pourtant, l'esprit... Donc, on peut vivre une ambiance, une façon de vivre l'Église par habitude. On peut. Vous savez qu'on peut très bien imiter la vie de l'Église. N'importe qui peut le faire. N'importe qui. On peut très bien vivre et puis parler du Saint-Esprit, puis vivre des choses, dire des choses, mais sans rien vivre, quoi. Et je crois que... Vous savez, même s'il y a tout ça, ça ne signifie pas que le Saint-Esprit agit activement dans les vies de ceux qui viennent. Ça ne veut absolument pas dire que les gens sortent de là émerveillés par Dieu et poussés à l'adorer. Quand vous sortez de la réunion, vous dites, mais maintenant, je vais adorer Dieu toute la nuit, quoi. J'ai envie, j'ai pas envie qu'il me quitte, je veux être avec lui tout le temps, tous les jours. Alors, il va y avoir une espèce de louange dans ton cœur qui va bouillir tout le temps et que tu vas continuer à le faire, et même en marchant au volant de ta voiture, parce que tu auras reçu quelque chose. Et souvent, ils ont tendance à décrire la qualité de la musique ou de la prédication plutôt que la raison principale qui motive à se retrouver à l'église. On juge, on analyse ce que l'homme a dit ou comment l'a été la louange. Ah, il devait pas être en forme aujourd'hui. Oh, bon là, il était en forme. Mais autrement, non mais, ah, non, il y avait la présence de l'esprit. Et je crois qu'on juge mal les choses, alors qu'on devrait pouvoir dire, j'ai touché le bord du vêtement de Jésus. Je suis plus le même. Je suis guéri. Ma vie est changée. Et ça, ça se fait naturellement. J'ai aimé quand elle est partie. Je veux pas te glorifier, mais elle a quitté là, puis elle est partie. Mais l'esprit, il la pousse. Elle a fait, mais c'est pas juste pour se faire, mais ça se sentait que c'était de l'esprit. Alors des fois, il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais n'importe quoi. Mais, et pourtant, si on ressent ce que l'esprit veut faire, on va être complètement changé, quoi. Et des fois, l'esprit parle, il fait par des gestes, des choses que l'un et l'autre vont faire, on ne le voit même plus. Parce qu'on est tellement habitué à un système qui est écrit qu'on a toujours fait. Moi, l'Église a toujours fait comme ça, on va pas changer, quoi. Et ça, c'est terrible. Je crois. Vous savez, je sais pas si je vous l'ai dit, je suis allé dans une église à Tours, je vous ai dit, là, dans une église où il y a 600 membres, c'est pas mal quand même, hein. Bon, il y a le bas, puis il y a le haut, hein, tout est plein. Puis voilà, premier jour que j'arrive, bon, c'était dur parce que je suis pas de ce style déiste, là, spécial, là. Je suis pas comme eux. Alors, quand ils me voyaient parler, ça les gênait un tout petit peu. C'était pas dans leur rituel. quand ils prient, eux, ils font « Seigneur Jésus !» Voilà, puis ça, tout le monde tremble. Et puis voilà, puis tout le monde a la même prière, tout le monde est stéréotypé, on est tous formatés, on est des clones, on fait, tout le monde fait pareil, tout le monde. On sait d'où ils viennent. Et puis, pourquoi je dis « Seigneur, je suis venu là, quoi ?» Puis deuxième soirée, puis après, d'un coup, la présence de l'Esprit est descendue, mais tellement fort. Le dimanche, écoutez ça, le culte, la réunion était tellement forte. La présence de Dieu se manifestait dans les gens. Et puis Dieu me dit, Hervé, retourne à ta place. En pleine action de l'Esprit. Je dis, mais Seigneur, je dis non. Il dit, Hervé, appelle juste le guitariste avec sa guitare sèche, dis-lui de venir jouer. Et toi, va t'asseoir à côté du pasteur et laisse-moi faire. Je dis, mais... Donc, j'appelle, mais c'est très soumis dans cette église, le gars musicien, il demande, je peux, à son pasteur, ça fait rigolo. Et puis, il lui dit oui, parce qu'il comprenait pas ce qui allait se passer. Alors, il vient, puis écoutez, il commence à jouer avec les cornes, et moi, je vais m'asseoir. Le pasteur, il me dit, tu vas pas me faire ça. Tu vas retourner là-bas. Tu vois pas, il y a la puissance de l'Esprit. Je dis oui, la puissance de l'Esprit, mais pas Hervé. C'est le Saint-Esprit qui agit. Alors, j'ai rien à voir avec l'histoire. Non, je suis juste un instrument entre les mains de Dieu, mais c'est pas moi. Si, il faut que tu y ailles. Je dis non, je reste là, je bouge pas, sinon le Saint-Esprit va être en colère après moi. Alors je dis, je bouge pas. Et le gars commence à jouer, écoutez, une onction. Les gens tombaient à genoux et confessaient leurs péchés. Et ils confessaient leurs péchés. Le pasteur, il me dit, ils ont fait tout ça. Je dis, mais c'est pas possible. Il dit, j'avais rien vu dans mon église. Et puis, tu te rends compte, tous les gens en train de pleurer, d'hurler par terre. C'était fou, quoi. La présence de l'Esprit avait convaincu le péché. Et moi, j'avais rien fait du tout. Juste au début, j'ai commencé, et puis je me suis assis, et j'ai laissé l'Esprit. Et le gars même qui jouait la guitare, c'est même pas ses chants, quoi. Même s'il avait une belle voix et tout. En fait, il était là juste pour montrer, et je crois que Dieu voudrait dire, mais ni par force, ni par puissance, mais par mon Esprit. Laisse-moi faire. Et ça, il peut le faire au travers de chacun de vous. Des choses extraordinaires. Guérir des gens malades sur la route, quoi. Tu te rends compte? Ressusciter les morts. Ouais. Alors, en fait, nous, on pense que c'est vachement grand, ressusciter les morts. Mais c'est la même chose. Pourquoi tu crois que quelqu'un s'est donné à Christ? Comment tu le sais qu'il s'est donné à Christ? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? C'est lui seul qui vit quelque chose. C'est Dieu qui vient le convaincre. Et pourtant, tu y crois. Pourquoi tu crois pas au miracle et puis aux guérisons? Pourquoi tu crois pas à la résurrection? C'est du même lot, c'est le Saint-Esprit toujours qui agit. Et c'est pas plus, mais dans notre tête, on a fait des cases. Et on pense que, mais tu peux aussi être, et servir de toi. Écoutez, encore une autre histoire dans l'aéroport. J'étais assis en train d'attendre à la porte. Et puis, faut attendre des fois un petit moment quand même, une demi-heure, mais tout le monde s'assoit, moi aussi. Moi, j'étais avec mon téléphone en train de faire mes mails. Puis d'un seul coup, il y a une femme qui vient, mais tout le monde peut s'asseoir partout. Puis elle s'assied à côté de moi. Puis d'un seul coup, elle me regarde. Elle hurle. Oh! Comme ça. Je dis, qu'est-ce que... En fait, elle était remplie de démons, cette femme. Mais remplie. Elle a hurlé, son visage s'est tordu. Elle a pris et elle a remonté tout le contrôle en sens contraire. Des gens ont voulu la cerner, tout le monde est tombé par terre. Elle a continué comme ça. La puissance de l'Esprit qui est en nous est bien plus grande que ce qu'on peut penser et imaginer. En vous, en moi, en chacun de nous. Et cette femme est partie en hurlant. Mais comment ça peut se faire, une histoire pareille? Mais normalement, l'Esprit de Dieu, s'il est en vous, il peut bouleverser des gens autour de vous, changer des vies, transformer des vies. Je pense que c'est tellement important, quoi. En Romains 8, 9, il est dit, Romains chapitre 8, verset 9, « Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Alors, est-ce qu'il habite en vous? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il habite en nous? Si je suis croyant, l'Esprit de Dieu habite en moi. Paul, il a encore répété cette vérité en 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. » C'est clair pourtant. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est tous les jours avec vous. Il ne vous quitte pas, il ne vous change pas, il reste le même. C'est incroyable. Tu te rends compte, tout à l'heure elle était émerveillée, moi aussi je dis, ce que j'aimais, je buvais quand elle était émerveillée parce que je dis, ah oui, on avait envie de plonger avec elle dans toute cette présence de la gloire de Dieu. Et je crois que oui, il habite en nous le Saint-Esprit. Et Paul le dit, nos corps sont le temple de l'Esprit, nous sommes son lieu d'habitation. Dans toutes les églises que je visite, les chrétiens disent avoir reçu le Saint-Esprit. Ils disent même, à qui veut l'entendre, que Dieu leur a donné la capacité surnaturelle pour suivre Christ, mettre leurs péchés à mort, servir l'Église. Ils parlent même de naître de nouveau. Ils disent qu'ils étaient morts, mais que maintenant ils sont revenus à la vie. Mais quand ceux qui n'appartiennent pas à l'Église ne voient pas de différence dans leur vie, alors où est l'Esprit ? Et pourtant, ils ont un beau langage évangélique, charismatico, tout ce que vous voulez. On a un langage, on a un patois de canon, on a... Ah, moi, j'ai vu tellement de gens comme ça faire ça, évangéliser. Moi, je suis rempli du Seigneur, moi, je... Puis si sa vie, elle n'est pas changée, alors pourquoi ? Et les gens voient ça, alors c'est tellement ça fait peur, moi, tout ça. Je crois que les gens peuvent se questionner sur notre intégrité si nous ne vivons pas la puissance de l'Esprit. Faire la différence avec le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi qui crois et ceux qui ne croient pas? Quelle différence? Juste, tu parles de Jésus, tu as un beau langage évangélique ou tout ce que tu veux, mais si ta vie n'est pas conforme, n'est pas changée, n'est pas comme Dieu voudrait que tu sois, alors... Je crois que ça peut remettre beaucoup de choses en question. Et quand on regarde Jésus s'apprêter à quitter la terre, et il réconforte ses disciples en leur disant de ne pas s'inquiéter, mais de croire en lui. Jean 14. Il leur dit que cette séparation ne serait que temporaire, et qu'il allait leur préparer une place là-haut. C'est dans Jean 14, 2 et 3. Il leur dit encore qu'il allait être avec le Père, et que même de là-haut, il entendrait leurs prières. Tu te rends compte? Tout le monde le sait par cœur tout ça. Et pourtant, pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on est troublé? Pourquoi ça ne va pas? Il y a quand même quelque chose qui ne coïncide pas avec la réalité de ce que nous lisons dans la Bible. Et c'est là où je veux remettre toutes les pendules à l'heure. Comme un Suisse, je suis pas Suisse, mais quand même. Et je crois que Dieu veut vraiment, vraiment ça. Et pour finir, en Jean 14, 16, Jésus leur donna à ses disciples l'ultime assurance. Il leur dit, le Père leur enverrait un autre consolateur, Jean 14, 16, hein, un autre consolateur qui sera éternellement avec eux. Et quand on lit le sens du mot grec, un autre, ça signifie un autre qui est comme le premier. Tout comme Jésus. Contrairement à un autre qui est d'un genre différent. Jésus disait donc que celui qui viendrait serait exactement comme lui. Imaginez-vous que ça serait d'avoir Jésus en chair et en os ici. Tu te rends compte, tu as la réponse à tout ce que tu vas avoir. Tu as tout, ça serait extra quand même, hein. Ça serait mon conseiller personnel, imaginez la paix qui vous envahirait. Rien que de savoir que nous ferions plus d'erreurs, qu'on aurait la vérité parfaite. Waouh ! Pourquoi supposons-nous que ce serait mieux que d'avoir littéralement la présence de l'Esprit ? Quand vous avez la présence de l'Esprit, c'est réellement Jésus qui est avec vous. C'est pas quelque chose d'autre, c'est exactement la même chose. Et il est partout. S'il n'était pas monté, nous, on ne l'aurait même pas connu ici, en Belgique, ni à Toulouse. Il serait resté là-bas où il était, dans son pays. Mais là, il a répandu de son esprit. Mais souvent, quand il est dit en Jean 16, 7, il dit « Il vous est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et Jésus leur disait « Oui, j'étais avec vous pendant 3 ans et demi, mais il vaut mieux que je vous quitte pour que le Saint-Esprit vienne à vous. » Et je suis certain que les disciples auraient dû dire « Non, nous on préfère que tu restes avec nous, quoi. Nous on sait, on peut te toucher, quoi. Mais l'Esprit, tu te rends compte, on ne le voit pas. » Eh bien, on est pareil aujourd'hui. Combien de gens disent, et j'ai entendu ces remarques, « Ah, si Jésus avait été au milieu de nous, ça ne serait pas passé comme ça. » Mais il est là, tous les jours, par son Esprit, rien que quand on se rassemble à 2 ou 3, il est là. Et il est continuellement là. Alors pourquoi on ne vit pas tout ça? Pourquoi on ne vit pas cette dimension qui est écrite dans la parole? Pourquoi nos vies ne sont pas conformes à ce que la parole nous dit? Alors, est-ce que c'est un autre esprit? C'est une grande question. Et je crois donc beaucoup d'entre nous choisiraient un Jésus physique plutôt qu'un esprit invisible. Et pourtant, il est là. Il est là. Alors, c'est vrai, comme on n'y croit pas trop, on fait plein de bêtises. N'importe quoi. Tu te rends compte, ton esprit, ton intelligence est renouvelée. Ça veut dire que tu n'as même plus besoin de prophète pour te dire une parole. Tu peux savoir exactement tout ce que tu dois faire au moment où tu avances et tu fais, dès que tu te lèves. Tu devrais avoir le contact avec l'esprit et connaître, même dans tes choix, tu devrais. Tout chrétien né de nouveau, rempli de l'esprit, doit pouvoir arriver à manifester et à savoir. Normalement, les ministères, c'est juste pour amener les gens à rentrer dans ça, mais pas pour faire. Les pasteurs sont là pour vous entourer, pour vous aider à rentrer dans ce que Dieu va vous donner, mais pas pour faire. Et souvent, on attend des ministères ou des pasteurs, de ceux qui, des anciens, qui fassent tout. Mais non, ils devraient rester assis et ne rien faire. Mais vous encourager, vous en former pour que vous puissiez vivre cette dimension de l'esprit. Vous comprenez? Et je crois que c'est tellement important tout ça. Si vraiment nous croyons au Saint-Esprit, à cette promesse, pourquoi nos vies ne reflètent pas cette croyance? Grande question. Hein. Alors vraiment, je suis en train de vous troubler. Hein. Je vais arrêter quand même là. Mais demain, on en rajoute encore une petite louche. Jusqu'à dimanche. Tant pis. Mais je veux vous montrer que finalement, nous avons un langage, mais nous ne vivons pas. C'est ça que je vais essayer de vous montrer. Alors, on a plein de choses à changer. Peut-être à faire une grande réforme là-haut. Hein? La réforme de Luther et tout ça. Mais nous, on a une réforme à faire sur notre compréhension. On a tellement pris des habitudes. Tellement pris, tellement de fonctionnements purement humains. Les églises aujourd'hui sont très humanistes, très humaines. On fait tout humainement. Tout ce qu'on peut faire pour la société, pour les pauvres, pour les malheureux. C'est vrai que Dieu a dit de s'en occuper, mais en fait, on passe tout son temps avec plein de choses comme ça, mais en fait, notre vie, elle ne reflète pas cette vie d'esprit. En fait, tu serais tellement rempli d'esprit que les gens vont changer quand tu vas les rencontrer, quoi. Parce qu'ils ne te verront plus, mais ils verront Jésus. Alors, donc il y a quelque chose qui va faire. Quand tu pries pour les gens, pourquoi on ne vit pas des guérisons comme on devrait vivre? C'est une grande question. En réalité, quand tu lis dans les actes, il y en a tellement. Puis, quand tu regardes aujourd'hui, il n'y en a pas tellement. Est-ce que le Saint-Esprit a changé? Non, on a besoin de changer, nous. Et devenir des petits-enfants, quoi. Dieu a dit, il a tout accompli. Vous savez, il ne recommencera pas la croix. Hein. Il l'a fait une fois pour toutes. Puis il a dit, tout est accompli. Tout. Maintenant, prenez, faites. C'est ça qu'il a dit. Hein. Alors, waouh, Jésus. Oui. Je vais dans une église à Marseille. Les responsables étaient tous en larmes. Quand je parlais, puis il dit, mais on a tout faux. Mais on a tout faux dans la construction de l'église. On a tout faux. On a fait tout à l'envers. On poussait les gens et tout, puis ils bougeaient pas. Mais quand l'Esprit, il est là. T'as vu tout à l'heure, à un moment donné, l'onction était là, la louange monte tout seul. Mais c'est fou. Oh, je vous raconte encore une dernière histoire quand même. Ça me vient. J'étais dans une église, ouais, ils étaient nombreux aussi, hein. Écoutez, c'est la première fois que je vois dans une église que tout le monde prophétise. Mais alors, tous. C'est incroyable. Et j'étais là, je dis, waouh. Ils ont pris la parole de Paul au mot. Tout le monde doit prophétiser. Mais dans tout ce qui était prophétisé, on doit apprendre à analyser. Et moi, j'ai analysé tout de suite. C'était tout et n'importe quoi. Tout le monde avait envie de dire son petit mot, quoi. Alors, tout le monde avait dit son petit mot. Puis après, j'étais voir le pasteur à la fin. Puis j'étais à la première réunion. Je dis, écoute, là, je crois que tu devrais intervenir. Parce que là, il y a tout et n'importe quoi. Puis tu vois, tu as des gens qui sont plus anciens dans l'église. Ils vont partir de l'église. Parce qu'il y a n'importe quoi qui se fait ici. Et je dis, je serai à leur place, je partirai aussi, moi. Mais écoute, incroyable. Bon, première chose. Deuxième chose, la louange. Alors là, aussi, une équipe de jeunes, top, aussi. Alors là, ils étaient des pros. Et je crois que ça devait être des vrais pros dans la musique. Mais vraiment dans la musique, même dans leur quotidien, je crois. Puis ils étaient chrétiens en plus, donc, ils ont fait un beau concert, quoi. Mais alors, tous les gens sont restés assis, personne ne louait. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que, il n'y avait même pas une envie d'adorer. Mais ils ont bien joué, ils ont bien chanté. Là, je dis, je vais plus passer par le pasteur, je vais aller les trouver directement le responsable de la louange. Je lui dis, écoute, il dit, je crois que tu t'es même pas mis devant Dieu parce que tu connais tout par cœur, quoi. Je dis, vous avez même pas prié, je suis sûr. Je dis, je suis sûr que vous n'avez même pas répété parce que vous avez tout dans les doigtés, vous savez tout. Et il dit, oui, c'est la vérité. Je dis, tu sais, essaie de faire la différence. Mets-toi devant Dieu, puis demande-lui simplement, pas juste parce que je te l'ai dit, mais demande-lui. Écoutez, le dimanche, c'était encore eux. Ah là là, le dimanche, il avait des poches sous les yeux, il a dû passer toute la nuit à prière, demandant pardon à Dieu, je suis certain. Mais écoutez, aux premières notes de musique, tout le monde était debout. Le Saint-Esprit agissait dans les vies. Tu dis, c'est la même équipe, les mêmes musiciens, mais là, il y avait l'Esprit de Dieu qui agissait. C'était plus eux, c'était l'Esprit qui faisait au travers d'eux. Quelle différence! C'est dur quand tu es pro aussi, hein, dans la musique, parce que tu aurais tendance à vouloir montrer ton savoir. Et pourtant, c'est bien de connaître. Moi, j'aime quand c'est bien joué. Quand il y a un instrument qui n'est pas accordé, dans ma tête, je le sens, c'est terrible, terrible. Mais pourtant, si tu laisses pas l'esprit, ça ne sert à rien, quoi. Alors moi, je crois que Dieu veut nous apprendre quelque chose, hein. Voilà, faut que j'arrête de parler. Un petit peu. Demain, moi, on ira un peu plus loin. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce que je sais que Dieu veut et secouer les églises actuellement. Ramener la vraie vérité. Mettre en lumière les choses. Et puis, ouais, dire un petit peu que le peuple doit commencer à remettre les choses comme il faut. Et ne plus faire du rituel ou du systématique. Mais vraiment vivre quelque chose. C'est quand tu as l'Esprit du Dieu que tu adores, tu le sens la différence. Ta vie est tellement changée. T'es plus le même. Et je crois que c'est ça que Dieu veut, qu'on ressorte complètement changé. Wow. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Moi, je veux te prier pour que ta parole s'accomplisse dans les vies de chacun. Qu'il y ait ce changement dans nos mentalités. Seigneur, on veut te laisser de côté tout notre savoir et toutes nos habitudes, ouais, les habitudes religieuses que nous avons, Seigneur, et même notre savoir et notre connaissance humaine, ça se passe comme ça, ça doit se faire comme ça. Il y a tellement de choses écrites de partout, tellement de modèles, Seigneur, qu'on imite les modèles de partout et nous on vit pas. Et Seigneur, on veut te demander pour que ton esprit soit libre au milieu de nous. On veut pouvoir vivre dans notre quotidien, mais aussi quand on se retrouve tous ensemble, Seigneur. Que peut-être il y aura un qui aura quelque chose à apporter, et l'autre autre chose. Faire du bien au frère, à la sœur. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi demain, Seigneur? Oh, pas ceux qui vont faire la louange juste, ni celui qui va prêcher, mais vous. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va me donner de faire? Oh, alors, peut-être j'ai une consolation à dire à quelqu'un. Merci Seigneur. Juste une petite histoire d'une grand-mère quand même. J'aime bien cette histoire. Parce qu'il y avait une grand-mère qui vient vers moi, puis elle me dit, ah, mais à mon âge, puis elle était comme ça, à mon âge, je peux plus, faut laisser les jeunes. J'ai dit, non. Si t'es encore sur la terre, tu as encore quelque chose à faire. Oh, mais que veux-tu? Je peux pas. J'ai jamais appris. Je ne sais même pas. J'ai pas de don. J'ai rien, qu'elle me dit. Je dis, tu te rends compte, toutes ces années, t'as rien. Mais alors Dieu, il est pas sympa quand même avec toi. Il t'a pas donné? Elle dit, non, mais je viens tous les dimanches. Je dis, oui, c'est pas mal quand même, mais en fait, elle change pas. Puis je lui dis, oh, tu vas au bout de l'église. Il y a des cartes postales avec des versets bibliques. Elle dit, oui, j'ai vu ça. Mais je dis, achète-en une dizaine de cartes. Puis, tous les dimanches, quand tu viendras à l'église, demande à Dieu à qui tu dois donner ce verset. Elle dit, ça, je peux le faire. Ah ben, je dis, fais-le. Le dimanche qui suivait, elle a acheté ses cartes tout de suite en sortant, et elle a cherché, et à chaque fois qu'il y a une réunion, elle donne la carte à la personne qu'il faut, avec le verset qu'il faut. Et les gens sont complètement dégagés. Alors, ils peuvent adorer Dieu parce que Dieu leur a parlé. Et la grand-mère a pu faire quelque chose qui était à sa portée. Mais elle a fait quelque chose pour bénir les autres. Tu te rends compte, pas venir pour toi, mais pour bénir les autres. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu vas me faire faire, Saint-Esprit? Waouh, j'arrêterai pas de parler, hein. J'ai comme elle ce bout. Comment? Oh, elle est trop gentille, la mamie. Merci, Seigneur. En tout cas, faut plus qu'écouter, faut vivre maintenant. D'accord? Moi, mon plus beau cadeau, c'est que je vous vois vivre les choses demain. Ah, et après-demain, et dans votre travail, et autour de vous. Ah, Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Ah. Voilà, alors je vais donner quelques paroles prophétiques. Je pense que tu enregistres, c'est ça? Oui, il dit oui. Il fait comme les ânes, il dit oui. Non, pardon. J'aime plaisanter aussi, hein. Jésus, il aime plaisanter. Il aime rire, hein, vous savez pas, mais moi je ris bien avec lui des fois. Voilà. Et puis, ça sera enregistré, vous lui demanderez, mais en même temps, toutes les paroles sont soumises aux autorités locales. En fait, je n'ai aucun droit sur vous, même si Dieu m'a donné un ministère. J'ai aucun droit sur vos vies. Je suis venu pour vous servir, soumis aux autorités. Et pour moi, ça me plaît. Parce que je suis libre et je peux faire comme je veux, parce qu'ils me diront après si c'est bien ou pas bien. Tout à l'heure, il va peut-être me dire, Hervé, tu m'as secoué l'église. Attends, mais je dirais, je t'en mettrai une couche demain. Non, voilà. Mais je vais donner quelques paroles personnelles. Relisez-les. Des fois, ça s'accomplit pas toujours comme nous, on pense. Mais apprenez, au travers des paroles, à écouter qu'est-ce que l'Esprit dit à votre cœur. Puis peut-être, ça peut vous aider en allant voir les responsables pour dire, j'ai eu ça, je comprends pas. Et peut-être, vous savez, ils vous connaissent mieux que vous-même. Et si vous avez même des personnes dans l'église qui ont un avancé plus grande avec le Seigneur, bah allez les voir, puis dites, voilà, je comprends pas ça, qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Puis des fois, ils vont vous dire, ah, mais c'est tout à fait toi, hein. Alors là, tu ressembles comme deux gouttes d'eau. Alors non, moi, je m'étais pas vu comme ça. Et je crois que Dieu veut qu'on s'aide les uns les autres. Exhortez-vous, encouragez-vous, et on a besoin des uns des autres tout le temps.